Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, épisode du mardi 12 octobre, et aujourd'hui, on a parlé de quoi ? On a parlé de l'hyperactivité. L'hyperactivité où les enfants atteints de troubles dits TDAH. Vous allez entendre avec Agathe Le Caron Sandra qui est la maman de Mathias, qui a 11 ans, atteint donc de TDAH. Et puis, nous allons débriefer, comme on dit, avoir les bons conseils, les bonnes analyses du professeur Bruno Falissard, qui est pédopsychiatre, et vous allez l'entendre, qui est passionnant. Allez, c'est parti !
Bonjour Sandra.
Bonjour Agathe.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors vous êtes la maman de Mathias qui a 10 ans et demi. Dès la maternelle, on va le dire, Mathias, il ne tient pas en place. Quoi. Voilà, il chahute. Du coup, évidemment, les enseignants vous font des remarques, vous êtes convoqués. Et puis, plus le temps passe, plus les problèmes ne s'arrangent pas, plus les problèmes de comportement deviennent une vraie souffrance pour lui, parce que ça, c'est très important. Il en a souffert, on va en parler. Il vous a fallu... Enfin, un temps dingue pour obtenir un diagnostic, trouble de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Et grâce à ce diagnostic, vous pouvez enfin aider concrètement votre enfant. Alors, déjà, si vous remontez vraiment très loin, est-ce qu'il y a des signes chez Mathias qui auraient pu vous faire penser à un trouble de l'hyperactivité, je veux dire, quand il était tout bébé, tout petit ?
Alors c'est vrai que Mathias, quand il est né, était un enfant déjà très tonique. Il est né les yeux grands ouverts, il tenait sa tête, donc pour un nouveau-né, c'est pas courant.
Ah oui.
Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup besoin d'interaction et d'activité. Même au bout de quelques semaines, on voyait qu'il s'ennuyait très très vite. Il a marché à 10 mois, il a parlé très vite, donc voilà, c'est un enfant assez remuant, vivant, un peu fatigant. Mais tant que c'était dans le cadre de la famille ou en petit comité, ça se gérait. Je pense que les difficultés ont vraiment commencé à se voir en crèche et avec l'entrée en collectivité, où en fait on a constaté un gros décalage entre ses apprentissages qui étaient rapides et très bons et son incapacité en fait à comprendre des règles de base vraiment très simples de vie. En collectivité.
En collectivité.
Voilà, rester assis, écouter une comptine, obéir au minimum de règles qu'on peut avoir en crèche. Et une très forte impulsivité qui faisait que sans agressivité, il avait des rapports aux autres un peu compliqués. Il pouvait pousser, il pouvait être un peu violent parfois. Et même avec nous, l'impulsivité était très importante. Moi, je me suis retrouvée très souvent à devoir lui courir après au parc parce qu'il partait.
Ouais.
Et on avait beau me dire non, mais laisse-le, tu vas voir, il va revenir. Non, non, je pense que je l'aurais retrouvé à Marseille. Hein, il ne serait pas revenu. Voilà.
Et vous habitez en région parisienne.
Voilà, c'est ça. C'était loin.
Ok. Comment ça s'est passé l'entrée à l'école maternelle ? C'est souvent là qu'on commence à soupçonner certaines choses. Est-ce que ça a été le cas ?
Oui, tout à fait. Alors, il avait très envie d'aller à l'école. Il s'ennuyait un peu, donc il était vraiment super content, super motivé. Et rapidement, on a un peu déchanté lui aussi. On s'est fait convoquer tout de suite, quasiment, avec une maîtresse qui était à la fois perdue et pas forcément tout le temps dans une entière bienveillance. Mmh. Donc, on me disait qu'il perturbait la classe, qu'il s'ennuyait, donc il mettait le bazar. Incapacité à comprendre les règles simples et en même temps toujours des apprentissages assez rapides. Des rapports aux autres aussi compliqués, beaucoup d'impulsivité encore une fois. Et le centre de loisirs aussi, je me faisais attraper tous les jours, que ce soit par la maîtresse,
ah ouais.
Le centre de loisirs, il a fait ci, il a fait ça. Après, il avait un comportement qui n'était pas non plus adéquat. On m'a expliqué un jour qu'il avait fait pipi dans les jeux... de la cour. Voilà, c'était
mais
des comportements.
Mais comment vous
viviez-vous ? Mal, hein, la boule au ventre en allant chercher son enfant tous les jours. Donc du coup...
On culpabilise, on a honte, enfin bon.
C'est ça, exactement.
C'est vraiment difficile pour les parents, il faut le dire. Et à la maison, ça se passait comment ? C'était la même chose ou pas ?
À la maison, c'était à peu près la même chose. Il a souffert de terreurs nocturnes entre 2 et 3 ans, donc il se réveillait plusieurs fois par nuit, du coup, comme ça se passait très mal aussi à l'école en hurlant. C'était beaucoup de fatigue nerveuse et on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait plus faire. On ne pouvait plus aller chez des amis parce que selon la configuration de la maison, soit ils se mettaient en danger, soit ils pouvaient détruire des choses, ou bien aller au restaurant, c'était devenu impossible, il ne tenait pas en place, il fallait qu'on se relaie pour déjeuner. Enfin, des petites choses de la vie courante ont commencé à être très compliquées. On avait beau essayer de mettre en place soit de la pédagogie très très positive ou des punitions très fermes, absolument rien ne fonctionnait. Donc les difficultés combinées de la maison et l'école nous ont poussé à consulter. Donc on est allé voir des spécialistes PMI, on a passé des tests, donc on a détecté une précocité, mais pas plus en fait. Les différents psychologues qu'on a vus nous ont dit non, mais bon voilà, ça va se tasser, laissez-le grandir.
Vous aviez évoqué, vous, les troubles de l'attention, vous connaissiez un petit peu ?
Oui, un petit peu, mais comme il était aussi capable de rester vraiment posé sur des activités, par exemple le théâtre, les livres, dès que ça le passionnait, il restait calme, ça a trompé un peu le diagnostic.
Ouais. Alors l'entrée en CP, là aussi, moment charnière généralement ouais. pour ce genre de troubles.
C'est ça, bah, pareil, hein, dans la continuité, incapable de rester en place, il faisait le pitre, en classe, donc convoqué tout le temps. Et puis aussi, problème avec les autres, c'est-à-dire que son impulsivité faisait qu'il était parfois brusque, et une incapacité à décoder les codes sociaux, les jeux, l'implicite, le respect, par exemple, de l'espace de l'autre, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de conflits aussi en cours de récréation. Donc c'était voilà, la boule au ventre, encore une fois, les petites réflexions... Ah bah laisse-le moi un week-end, tu vas voir s'il n'obéit pas. Mais vous êtes sûr que la grossesse s'est bien passée ? Est-ce que vous ne lui donnez pas un peu trop de sucre ?
Enfin, oui, voilà, culpabilité, ça voilà. C'est la classique.
C'est ça.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en CE1, ça a vraiment empiré, surtout pour lui, parce qu'il commençait à souffrir de tout ça, j'imagine.
C'est ça. Donc le CE1, c'est nous ce qu'on appelle l'année de l'enfer. On est tombé sur des maîtresses qui étaient vraiment tout sauf bienveillantes. Hein. Je pense qu'on peut même dire que c'était presque malveillante. Alors elles ont fait pleurer aussi bien des enfants que des parents, il faut le savoir, on n'était pas les seuls.
C'est très rare. Mais ça
arrive, oui, ouais. Parce que vraiment, heureusement, ça a été la seule année qu'on a vécu comme ça. Mais c'était des cahiers qui volaient en classe, c'était des humiliations, c'était le rabaisser tout le temps. Et puis un système punitif assez présent, donc des croix, des punitions tout le temps. Et du coup, nous, on était très tendus parce qu'on était convoqués. On en avait marre aussi d'avoir un enfant à problème, hein, enfin, on peut le dire. Et un jour de trop, où il est rentré avec une punition, une énième croix, on n'était effectivement pas contents du tout. Et là, il a craqué, il nous a dit que de toute façon il était nul, qu'il ne servait à rien, qu'en fait il essayait. On s'est rendu compte que vraiment il était dans une incapacité de répondre à ce qu'on attendait de lui et qu'il préférait se suicider parce que de toute façon il ne servait à rien.
Le pauvre.
Voilà.
Alors bon, évidemment ça j'imagine que là vous êtes dit, bon il y a quand même un sujet.
Ouais.
Vous avez remué ciel et terre pour avoir un diagnostic. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Par nous-mêmes, hein, parce qu'on est assez seuls en tant que parents face à ce trouble. On a pris contact avec un centre pour repasser encore une batterie de tests. Et là, on a détecté effectivement un problème d'attention avec une forte impulsivité. La précocité a été, mais bon, ça quelque part, c'était presque anecdotique. Et effectivement, des capacités d'interaction sociale assez limitées. Donc, on n'était pas dans le spectre de l'autisme, mais c'était pas non plus dingue. Et du coup, par nos propres moyens, on s'est démené pour trouver un pédopsychiatre, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'en trouver. Et on a finalement trouvé quelqu'un de très très bien, qui a enfin posé le diagnostic donc du TDAH.
Alors comment vous avez réagi ? On est soulagé un petit peu quand même ou pas ?
Alors non, la plupart, je sais que beaucoup avec ceux avec qui j'ai discuté l'été, moi pas du tout. La première réaction, ça a été de la colère en me disant mais tous ces gens là que je croisais qui me disaient ah mais t'es sûr qu'il est pas hyperactif ? Ils avaient raison, donc ça m'a énervé parce que c'était fondé sur rien, justement sur le fait qu'il était turbulent et c'est bien plus que ça le TDAH.
Bien sûr.
Et en même temps de me dire mais quelle galère, pourquoi nous ? Pourquoi ça nous tombe dessus ? Ça y est, c'est parti pour une vie de galère qui nous attend.
Alors, ça a changé quelque chose à l'école, le fait que le diagnostic soit posé ?
Alors, en CE1, non, puisqu'en fait, les fameuses maîtresses de l'année de l'enfer ont refusé le diagnostic. On dit, non, il n'est pas TDAH, il a très bons résultats. C'est vous qui êtes de mauvais parents, quoi, en gros. Hein.
Mais si quelqu'un qui a un trouble de l'attention n'a pas forcément des mauvais résultats.
Ah ben voilà, donc il y a beaucoup de pédagogie, mais quand on ne veut pas entendre, hein, on n'entend pas. Donc le CE1, on est passé à autre chose, parce que de toute façon, elle voulait carrément sortir Mathias de la classe. Et là, après, on a eu vraiment énormément de chance. On est tombé sur une super équipe, une nouvelle directrice. Et Et pendant les 3 années qui ont suivi, on a été super accompagnés par des maîtresses qui ont vraiment eu à cœur, avec ce qu'elles avaient, hein, parce qu'ils ne sont pas très bien formés, pas le temps non plus forcément de pouvoir, quand on a 25-30 élèves,
bien
gérer
sûr.
Une particularité.
Mais oui, les pauvres.
Voilà, mais on a été très très bien accompagnés et elles nous ont aidés dans ces
et
années-là.
Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution concrète ?
Alors, une fois qu'on avait essayé la prise en charge qu'on appelle multimodale, hein, les psychologues, le sophrologue, psychomotricité, on s'est rendu compte qu'il ne faisait plus de progrès à un moment donné. Et accompagné par notre pédopsychiatre, on a décidé de lui donner le fameux médicament le plus connu qui s'appelle la Ritaline.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un grand sujet. On va l'évoquer avec notre expert tout à l'heure.
Oui, oui. Et c'est vrai que j'étais très frileuse. Je ne voulais pas lui donner. Et ben, on s'est informé. Si je caricature un maximum, je veux dire qu'en fait, ce n'est pas du tout un calmant. Au contraire, c'est un excitant pour le cerveau. Si je caricature un maximum. Et du coup, on a décidé de passer le cap. Et j'avoue que ça m'a vraiment rassurée de voir que c'était toujours mon enfant, que ce n'était pas devenu un légume, mais que j'avais de nouveau accès à lui. C'est-à-dire qu'il était vraiment là avec moi. On pouvait avoir des vraies discussions. On a pu aller au resto. Voilà, le premier resto, on a mangé une glace tous les deux. On a discuté, on a rigolé. C'est vrai que c'est marquant.
J'allais dire retrouver, mais vous avez trouvé
Exactement.
Votre enfant.
Ouais, j'ai eu de nouveau accès à mon fils.
Et lui était plus heureux ?
Lui était plus heureux parce que du coup, la spirale positive commence. Il est moins stigmatisé, il est bien pris en charge, il est plus calme. Du coup, bah, il est valorisé, il peut faire des activités qu'il ne pouvait pas faire avant, du style des échecs, l'escalade. Du coup, c'est vraiment la spirale positive et une très bonne prise en charge aussi par sa psychologue, l'orthophoniste. Du coup, tout ça l'ont amené à beaucoup de progrès. Il était soulagé d'être enfin un peu dans les cases, quoi.
Voilà, là, il rentre au collège, donc c'est encore une autre étape.
C'est
ça se passe bien ?
Oui, donc on a fait le choix de le mettre dans un collège à Paris qui s'appelle Saint-Sulpice, qui est dans le 6e arrondissement, et qui est un collège, en fait, qui a des classes ouvertes au 10 et maintenant au TDAH, qui, du coup, ont des professeurs bienveillants et formés. Et pour l'instant, il y va en chantant.
On va accueillir le professeur Bruno Falissard. Bonjour professeur et merci mille
Bonjour.
Fois de revenir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, biostatisticien, là franchement c'est challenge, et auteur de « Soigner la souffrance psychique des enfants » aux éditions Odile Jacob. Alors on l'a vu dans le témoignage de Sandra, un enfant TDAH, il peut réellement souffrir à l'école. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la scolarité de ses enfants ?
Ben d'abord, comme vous l'avez vu avec Mathias, d'abord, il faut en prendre conscience et il faut le dire à tout le monde. Il faut dire que ce n'est pas juste qu'il est mal élevé, etc.
Il faut créer une équipe, en fait. Hein.
Ben, il faut sortir des idées reçues. Voilà, il y a des enfants différents et on a le devoir d'accepter les enfants différents comme ils sont. Donc, prendre conscience et puis après adapter, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner des activités trop longues parce qu'ils vont partir. Et donc, on donne plein de petites activités. On les fait venir plutôt devant et pas au coin, au fond de la classe. Voilà, il y a même des astuces, il y a des coussins maintenant où il y a des petits picots dessus, comme ça, il paraît que... etc. Et puis après, plus on montre en gravité, plus on va faire appel à la médecine.
D'accord. Alors Nina vous demande quels sont les premiers signes qui doivent alerter les parents.
Alors, on l'a vu avec Mathias, en fait, les enfants bougent, ben, vivent la vie.
Oui. Hein ?
Alors après, quand ils bougent et que ça met le bazar partout et qu'ils commencent à se faire détester... ben, ils vont être malheureux. Et en fait, le problème, c'est qu'ils deviennent malheureux, c'est pas qu'ils bougent. Et donc, quand vous voyez que votre enfant, ben, il a du mal à vivre en société, à être accepté par les autres et par l'école, ben, c'est là que vous savez que si ça continue comme ça, ça va être très mal, et donc, ben, il faut s'inquiéter là.
On a reçu une question pour vous, professeur, de Julie, en vidéo, regardez.
Bonjour, je suis la maman d'un petit garçon TDAH, âgé de 6 ans, et j'aurais voulu vous poser une question sur comment gérer une fratrie. En effet, ma fille de 4 ans imite beaucoup les symptômes du TDAH de mon fils, mais x2. Et du coup, je ne sais pas du tout comment gérer la situation. Donc, si vous avez des conseils, je suis très preneuse. Merci.
On voit que c'est la maman d'une fratrie parce qu'elle chuchote. Je pense qu'elle a enregistré à 21h30. Elle dort, mais je suis tranquille. Professeur.
Oui, mais c'est une situation fréquente. Hein. On a des enfants en bas âge, la vie n'est pas forcément simple, on travaille, etc. On a un enfant qui a des soucis, et donc là, ben, on est préoccupé partout, et on oublie qu'il y a une petite sœur, et elle a envie d'exister. Et elle se rend compte ben, que son frère, quand il fait le bazar, tout le monde s'intéresse à lui. Ben, donc je vais faire le bazar moi aussi. C'est humain.
Classique,
ben, oui, c'est humain, et donc il faut prendre du recul et se dire, ben oui, on l'oublie, quoi. Elle est sympa, on
donc
l'oublie.
Donc le conseil, c'est de prendre cette petite fille et de temps en temps faire des choses juste avec elle, essayer de lui montrer que…
Ben oui, ouais. Et puis lui dire… Dire d'accord, ben écoute, c'est vrai ouais. que c'est dur, bon, ton frère, c'est un peu compliqué, mais on ne t'oublie pas, merci d'être comme tu es, on t'adore, et puis voilà, et elle va comprendre.
Ouais. Alors Théodore vous demande comment le TDAH est diagnostiqué.
Alors, d'abord, pour moi, diagnostiquer, c'est une maladie. Pour moi, le TDAH, fondamentalement, c'est une différence.
D'accord.
Donc on ne peut pas diagnostiquer.
Alors… C'est ça, parce que le mot diagnostic est fort. Hein.
C'est un trouble, c'est une spécificité.
Même pas, voilà.
C'est une spécificité. C'est-à-dire,
mon corps a besoin de bouger. Par moment, on a besoin de bouger. Eux, c'est ça, en permanence, beaucoup. Et mon esprit a besoin d'aller partout, partout, partout. Donc, je vais être curieux, créatif, etc. Et c'est bien.
Mais, oui, c'est des côtés super positifs.
Voilà, mais si je dois rester assis en classe pendant longtemps, ça ne va pas le faire. Si je suis dans la cour de récréation, ça ne va pas le faire. Voilà, donc déjà, il faut voir un panorama global, il faut comprendre la différence des enfants, et puis après, donc effectivement, il y a des symptômes typiques qu'on a vu tout à l'heure avec Mathias, de l'impulsivité, déficit de l'attention, hyperactivité, et ça, c'est un diagnostic clinique.
Donc là, on va chez un pédopsychiatre ?
En principe, oui. Le problème, c'est qu'on l'a vu avec Mathias, ben, il y en a très peu en France maintenant, c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Donc oui, en principe, oui. Sinon, votre médecin généraliste, il y en a de plus en plus qui sont sensibilisés à ça.
À partir de quand on décide de donner un traitement médicamenteux pour ces enfants ?
Alors, c'est la grande question des parents quand même. C'est, surtout quand on a un enfant qui est diagnostiqué, imaginons en grande section ou en CP, qui est tout petit.
Oui. Alors d'abord, officiellement, le médicament ne peut être prescrit qu'à partir du coup préparatoire. En théorie.
D'accord.
Alors après, si vous voulez, c'est un médicament qu'on connaît depuis avant la Seconde Guerre mondiale, donc plus de 70 ans, donc on a du recul. Comme ça a été dit avec Mathias, c'est pas un calmant, c'est un stimulant, donc ça rend pas les enfants comme ça, c'est un peu comme du café. Après, c'est un médicament quand on a des enfants dont le cerveau est en croissance. Et le médicament, il va dans le cerveau. Donc c'est pas à prendre à la légère. Donc pour moi, on prescrit le médicament au moment où
c'est plus possible de faire autrement.
Exactement.
C'est ça. C'est une question de bénéfice-risque, en fait. Quoi.
Exactement. L'enfant, il souffre trop. Voilà. Il est en train de s'effondrer à l'école. Les parents n'en peuvent plus. Parfois, il faut être honnête, les parents, on fait ce qu'on ne devrait pas faire. C'est-à-dire, il y a une main qui part et puis voilà. Donc, vous voyez, si on en arrive à ce stade, non, ça ne peut pas continuer. Et donc, on prend le médicament.
Il y a Tiffaine, par exemple, qui dit « Bonjour à tous, je suis enseignante au collège et au lycée. C'est très frustrant pour moi de ne pas avoir les bons outils, les bons réflexes pour ce type d'élèves. Comment et où puis-je me former ?»
Alors, je vais faire de la réclame. Il y a une association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, yacapap.org, qui a des documents pour apprendre ce que c'est que l'hyperactivité, etc. etc. Et c'est traduit en français aussi. C'est en anglais, c'est traduit en français.
Yacapap. Et c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres profs, Vincent par exemple, qui nous disait le problème, c'est pas de gérer un de ses enfants, c'est de le gérer un quand il y a 29 autres élèves dans la classe. Ça, c'est le sujet, c'est l'idéal, il faudrait une toute petite classe.
Bien sûr. Alors, quand les enfants vont vraiment pas bien, vous savez maintenant qu'on a des AVS, des auxiliaires de vie scolaire ou AESH, voilà. Mais il faut faire une demande à la maison départementale des personnes handicapées. C'est un peu stigmatisant aussi, donc… C'est pour les patients, pour les élèves qui sont vraiment en grande difficulté, mais ça aide beaucoup les enseignants.
Mmh. Alors, on a une question, on a parlé tout à l'heure de ce traitement, la Ritaline. Sophia nous dit, je suis la maman d'une fille de 9 ans TDAH, le médicament peut-il rendre dépendant ou changer mon enfant ?
Alors, grosse question, dépendant, ça a été décrit. J'ai eu un patient dépendant au méthylphénidate, donc c'est un vrai sujet. Il était dépendant, comme on peut être dépendant à la cigarette. Mm-hmm. Pendant 30 ans de pratique. Mm-hmm. Bon. Après, est-ce que ça change l'enfant ? Alors, chez les enfants à l'école primaire, 99 fois sur 100, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent un médicament.
D'accord.
Au collège et au lycée, oui, c'est vrai qu'ils se sentent souvent un peu différents. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué pour eux. Et je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai eu un ado au lycée qui dit, quand je prends le médicament, mes copains me disent, t'as pris ton médicament, t'es moins fun.
OK.
Mais quand je le prends, je travaille mieux. Alors du coup, il choisit. C'est-à-dire quand il sait qu'il
va… Ça, on peut faire à la carte.
Voilà. Alors, faut en discuter parce que c'est… pharmacologiquement, c'est pas un problème. Mais quand vous prenez, que vous ne prenez pas, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mais pour les grands, d'abord, c'est eux qui décident. au lycée, c'est eux qui décident le médicament ou pas. Et on discute avec eux et ça marche bien.
J'entends souvent, moi, mais alors c'est totalement empirique, des parents qui disent que plus les enfants avancent en âge, mieux ça va.
Oui.
C'est vrai, ça?
Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué, à 50 ou 60 ans, on est quand même moins vif qu'à 5 ou 6 ans.
Non, mais oui, c'est pas ça, une blague. C'est parce qu'on...
C'est que le cerveau mature. Non, le cerveau change.
Oui.
Et quand on dit qu'on devient sage, en fait, c'est la nature qui fait ça. Et donc, certains enfants hyperactifs, au collège, ben, c'est fini. Mm. Voilà, mais c'est imprévisible.
On dit qu'il y a plus de garçons que de filles qui sont hyperactifs. Est-ce que c'est vrai?
Alors, ça aussi, c'est une... Alors, hyperactif au sens propre du terme, oui. Après, ça a été étudié, vraisemblablement, on sous-évalue l'hyperactivité des filles, en particulier en ce qui concerne le déficit de l'attention. C'est-à-dire que, comme les filles, globalement, bougent moins que les garçons, c'est une réalité anthropologique, en fait, on ne se rend pas compte que la fille a un TDAH. Et on dit, elle travaille mal à l'école, c'est juste ça. Ben non, en fait, elle devrait être aidée.
On dit, elle est dans la lune.
Oui, ou elle est un peu faux-folle, voilà, et hop, en réalité, elle a le trouble, mais comme elle fait moins le bazar que les garçons, ben en fait, on ne s'en préoccupe pas.
Mmh. Grégory nous demande, connaît-on les causes?
Alors, les causes des problèmes psychiatriques, hein, c'est un vaste débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vulnérabilité génétique, ouais. On ne peut pas dire le contraire. Alors néanmoins, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des vulnérabilités génétiques à tout, au cholestérol, etc. Après, il y a une composante environnementale, c'est-à-dire que comme s'il y a une vulnérabilité génétique, souvent les parents sont un peu actifs aussi, et que si vous avez un enfant actif avec des parents actifs, eh ben, tout le monde bouge beaucoup,
on
ça renforce.
On est très, très
actifs. Voilà. Alors après, il y a la question des perturbateurs endocriniens, des colorants, etc. Là, franchement, c'est pas grand-chose.
Est-ce qu'on sait, par exemple, s'il y a plus de TDAH aujourd'hui qu'il y a 30 ans? C'est très compliqué de le mesurer, parce qu'on ne s'y intéressait
pas
autant.
Parce que c'est mieux diagnostiqué, voilà. J'imagine, aussi. Mmh.
Mmh. Voilà. Alors... il y a des éléments pour dire ça. Je vois par exemple en Chine, où les collègues disaient qu'il y a 50 ans, ils avaient des classes en école primaire avec 60 enfants et tout le monde était assis, etc. Et maintenant, avec l'enfant unique et le bazar qu'il y a en Chine, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes d'hyperactivité. Donc on voit qu'on a quand même, c'est pas scientifique, mais on a quand même des éléments pour penser que la société et sa façon de cadrer l'enfant, ça a une influence sur le fait que j'ai une vulnérabilité, cette vulnérabilité va s'exprimer. Mmh.
Sur les causes, j'avais lu quelque chose sur des problèmes de neurotransmetteurs, dopamine, etc. Est-ce que ça, c'est...
Oui, bien sûr. Alors, c'est là, vous savez, le cerveau, c'est super compliqué. Donc, des fois, on a un petit bout, on a trouvé un truc et on dit c'est à cause de ça. Mm-hmm. Enfin, c'est vrai que, par exemple, le méthylphénidate, dont on a parlé tout à l'heure, ben, ça agit sur la dopamine. C'est un produit qui mime la dopamine.
D'accord.
Mais normalement, la dopamine...
Donc, la ritaline,
ça fait...
hein,
c'est... Oui, oui, c'est ça. Mais normalement, la dopamine, ça fait bouger. Chez les hyperactifs, ça fait le contraire.
Ouais. Ah oui.
Donc vous voyez, le cerveau, c'est compliqué, ouais, c'est même vrai. Si bien sûr ça se passe dans le cerveau, on est bien d'accord.
Bien sûr.
Alors Barbara vous demande si l'hyperactivité, le TDAH, rend l'adolescence plus dangereuse en favorisant les conduites à risque.
Alors oui, on est obligé de dire ça, mais ce n'est pas forcément le TDAH lui. C'est le fait que je bouge beaucoup, je suis un peu mis à l'écart de la société, donc je vais avoir des risques de consommer des substances, d'avoir des relations qui ne sont pas forcément les meilleures que je pourrais avoir, puisque mm-hmm. je suis mis à l'écart, mm-hmm. vous voyez. Mm-hmm. C'est tout un système qui fait que, oui, il y a des conduites à risque plus souvent chez les adolescents hyperactifs.
Mais vous parlez de substances. Est-ce que le cannabis, et on remarque qu'il est consommé par les TDAH en majorité, qui s'en servent pour...
Il y a plus, alors, oui, d'ailleurs, et d'ailleurs vous savez que beaucoup de personnes qui consomment des substances les consomment par automédication. D'ailleurs, beaucoup de gens qui fument, en fait, fument pour...
C'est thérapeutique, vous voulez dire.
Ah oui, alors c'est une catastrophe sanitaire, mais
eux,
eux, ils le vivent comme quelque chose qui répond à un besoin. Oui.
Et par exemple, aux États-Unis, là où le cannabis thérapeutique est légal, on peut le prescrire à des ados?
Oh, dans ce cadre-là, non, c'est vraiment une mauvaise idée.
D'accord.
Non. Puisqu'en fait, la ritaline, ça fait un peu l'effet contraire du cannabis. Donc, pharmacologiquement, l'hyperactivité est quelque chose de très compliqué. Mmh. On ne sait pas d'ailleurs, parce que vous parlez de dopamine, mais selon que la dopamine, elle est dans le cortex et dans les couches supérieures du cerveau ou à l'intérieur, ça ne va pas faire le même effet.
Oh là.
Elle est où votre dopamine?
Moi, elle est dans mes intestins. N'est-ce pas qu'il y en a?
ça agit.
Ah non, la sérotonine. Non, mais c'est sur les neurotransmetteurs.
On parle aussi beaucoup du CBD en ce moment, et comme je parlais du cannabis, est-ce que le CBD se serait indiqué?
Non.
Arrêtez d'essayer de vous rassurer, Yasmine, sur le fait que vous-même...
Et sur l'alcool, le soir, non?
Non.
Je fais ça. Comment expliquer
son trouble? Il sait plus quoi. Il est gêné.
Comment expliquer son trouble à un enfant très jeune quand le TDAH est détecté, vous demande Charlie, avec des mots simples, j'imagine?
Oui, ben voilà, t'es différent, tout le monde est un peu différent. Ben toi, t'es différent comme ça, c'est-à-dire, toi, t'aimes bouger, t'aimes aller partout dans ta tête, t'es curieux de tout, etc. Mais du coup, regarde comment ça se passe à l'école, ben tu vois, vu que t'as envie de bouger sans arrêt et que tu dois rester assis, ben c'est vrai que la maîtresse, elle n'est pas contente. Et donc, faut comprendre ça, voilà.
Irène vous parle de son fils qui est TDAH, qui a 10 ans et qui fait des crises, semble-t-il, assez violentes. Comment le contenir?
Alors, normalement, dans le TDAH, il n'y a pas de violence.
D'accord.
Alors, il y a de l'impulsivité. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Quand on est impulsif, parfois, on peut dire quelque chose qu'on ne voulait pas dire. Ça, c'est très fréquent dans le TDAH. Et après, vite, il va s'excuser. Il dit, je t'ai dit quelque chose de vilain, maman, excuse-moi.
D'accord.
Et parfois, il peut y avoir un geste qui part, et quand on est impulsif. Mais ce n'est pas à proprement parler de la violence au sens où je vais faire mal à quelqu'un.
C'est pas de l'agressivité,
quoi. Voilà, en voulant lui faire mal. Alors après, il y a associé au TDAH, justement parce qu'il y a un sentiment d'injustice, les gens m'aiment pas, c'est pas juste, et je vais devenir violent parce que la société m'aime pas. Ça, mais vous voyez, c'est autre chose. Et donc là, travailler là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus.
Cynthia nous dit, le moment des devoirs peut vite virer au cauchemar avec mon fils TDAH de 8 ans. Est-ce que vous avez des conseils?
Oui. Alors d'abord... c'est normal. Déjà, ce n'est pas facile de faire les devoirs aux enfants. Alors là, c'est encore moins facile. Alors, il faut fragmenter. Hein, comme ils ont des difficultés de concentration, il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut du renforcement positif, c'est-à-dire, ben, quand tu as réussi à faire un truc, bravo, c'est bien, etc., super, il faut encourager. Et puis, quand c'est vraiment la cata, ben, il arrive que ça ne soit pas les parents les mieux placés pour faire les devoirs.
Ça, c'est valable pour tous les parents, d'ailleurs.
Mais il y a des aides, Marie, je crois que vous avez présenté plusieurs fois des produits aussi pour les aider, comme le time timer, tout ça, non?
Oui, des dispositifs dont vous parliez tout à l'heure, avec les assises dynamiques, etc., qui peuvent aider, c'est vrai, à la concentration.
Bien sûr.
Ça ne fait pas tout.
Non, il y a plein de petites astuces comportementales, quoi, où on le sent bien, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui attire son attention, on va essayer de se mettre dans un endroit calme. Enfin, il y a beaucoup de bon sens. Hein.
Si on peut en parler à l'enseignant aussi, j'imagine qu'on peut ajuster les devoirs si c'est problématique à la maison.
Absolument, et en parler entre parents. Hein, il y a des groupes de parents, il y a des associations de parents d'enfants hyperactifs, où entre parents, ils se donnent des astuces, et puis c'est sympa, quand on a des soucis dans la vie, d'en parler à des gens qui ont les mêmes soucis.
Le laisser faire les devoirs debout aussi, pour les enfants qui bougent beaucoup, non?
Alors, d'abord, tous les coups sont permis si ça marche. Donc, alors, notamment, ils ont souvent des problèmes pour rester assis à table pour les repas. Bon, ben, voilà, c'est pas forcément un drame non plus.
Il faut pas avoir trop de principes.
Voilà.
Juste, quand on est parent. L'hyperactivité est toujours liée au trouble de l'attention, alors que le trouble de l'attention n'est pas toujours lié à l'hyperactivité.
Alors, vous voyez, ce que je vous disais, c'est en fait, mon corps a besoin de bouger, il a besoin de bouger, mon esprit a besoin d'aller partout. Et souvent, les deux vont ensemble. Alors après, il y a des enfants où les deux sont dissociés. Par exemple, chez les filles.
C'est ça.
Par exemple, chez les filles, parce que les filles, pour des raisons sur lesquelles qui sont compliquées, ont un contrôle comportemental supérieur aux garçons.
Et donc, on peut avoir un enfant hyperactif qui n'a pas de trouble de l'attention, je veux dire.
C'est rare, mais ça peut arriver, notamment ceux qui sont très doués, ils arrivent à avoir des stratégies attentionnelles qui contournent la difficulté.
Voilà, merci beaucoup au professeur Bruno Falissard, le pédopsychiatre, d'être venu nous voir, et surtout un grand merci à Sandra, la maman de Mathias. Allez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. Demain, on parlera du harcèlement au travail pendant la grossesse, donc une émission très importante. Rendez-vous si vous souhaitez le suivre en direct dès 9h25 sur France 2, et si vous ne pouvez pas, et ben ce sera en replay un peu plus tard en podcast. Allez, ciao tout le monde !